بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاعه الإسلام toutes les louanges reviennent Allah عز وجل qui nous accorde la possibilité de nous réunir quelques instants pour étudier un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole de notre prophète alayhi salatu wa sallam est un tracé vers le surat al-mustaqim. C'est une indication, c'est un mode de vie. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous annonce la situation des personnes les plus honorées le jour le plus terrible. La situation des personnes les plus honorées, la situation des personnes les plus chanceuses, les personnes les plus aimées par Allah en ce jour terrible, les personnes qui connaîtront l'apaisement du cœur, les personnes qui connaîtront ar-raha, as-sakina, at-tama'nina et an-najah, la protection, le jour où l'ensemble de la création sera inquiété. Ce sont ces personnes qui auront l'honneur d'être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. يوم لا ظل إلا ظله. Et pourquoi est-ce qu'on s'attarde autant sur ce hadith? Pour rappel, ce hadith fait partie des descriptions de l'au-delà. L'objectif de ce hadith, pourquoi est-ce qu'on cite ce hadith? C'est parce qu'on avait commencé à décrire les étapes de l'au-delà. Et parmi ces étapes de l'au-delà, comment est-ce que les gens seront ressuscités? Et lorsqu'on a vu comment est-ce que on a commencé à étudier la situation des pécheurs, quelles seront les conséquences des péchés le jour de Qiyam, et quel était l'objectif global à travers l'étude de cas, l'étude des châtiments ou des difficultés de la résurrection, c'était de comprendre et de réaliser les conséquences des péchés. Nous vivons dans un monde où nous recherchons en permanence le plaisir immédiat. Le plaisir immédiat, ça fait partie des règles dictées par notre société et une des conditions du bonheur. Petite parenthèse, on était au salon de la maison, d'accord, où il y a plein de choses à vendre, des choses parfois accessibles, souvent inutiles, et des choses très intéressantes, mais très coûteuses. Il n'y a pas un stand où un représentant ou un commerçant qui ne vous tend pas la main, quel que soit le budget qui est nécessaire pour acheter la marchandise, en vous proposant, voilà, faites un crédit, il y a des organismes de crédit, ou alors vous pouvez payer deux fois, trois fois, quatre fois avec votre carte sans frais. C'est-à-dire, on vous pousse à la consommation. C'est-à-dire que cet objet, je parle d'un objet, on va dire, ce canapé, par exemple, qui coûte, on va dire, un chiffre 3000 euros, tu ne peux pas l'acheter. Tu n'as pas les moyens de mettre 3000 euros dans un meuble ou dans un canapé ou dans un matelas. Mais la personne essaie de te faire entrer donc ça, de te faire ancrer ça dans ton esprit, qu'il est important que tu jouisses de la vie maintenant. Ce que tes yeux ont vu, ça te procurera le bonheur. Et ce bonheur-là, même s'il ne t'est pas accessible, ben, je te donne la possibilité de l'avoir. Maintenant, le dilemme du croyant, le dilemme du mu'min, c'est quoi? C'est, il se dit que j'ai accès à un bonheur immédiat. D'accord? L'objet coûte 3000 euros et me demande juste un acompte de 200 euros. Et puis tous les mois, ce sera débité 400 ou 500 euros. Donc c'est un budget qui est gérable. Mais je peux profiter de ce luxe, hein, immédiatement. Et c'est là une des règles de notre société. Le plaisir immédiat. On essaie de nous faire oublier la notion de temps. Et dans Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, de le tafsir de Suratul Mulk, à la fin, on avait, bi'idhnillah, mis en avant l'avis d'Ibn Kathir, rahimahullah, et d'autres mufassirines contemporains qui expliquent comment est-ce que les mushrikines, ceux qui n'ont pas foi en Allah, comment est-ce qu'ils ont complètement perdu, comment est-ce qu'ils se sont trompés de leur rapport avec le temps. Alors que le croyant se doit de réaliser l'importance du temps, considérer l'importance de chaque instant et optimiser ce temps afin qu'il lui soit profitable au jour de Qiyam. Justement, quand on étudie les conséquences des péchés, et c'est là qu'on réalise que l'iman bil yawm al akhir, étudier les descriptions de l'au-delà, c'est quelque chose d'essentiel qui renforcera, qui te permettra de développer ta foi en Allah. Comme on a maintes et maintes fois rappelé, à chaque fois qu'il y a de le Coran, iman billah, c'est suivi de iman bil yawm al akhir. Les deux sont liés. Tu veux vraiment augmenter ta foi en Allah, étudie les textes qui parlent de l'au-delà. Ça te donnera plus conviction, plus de yaqeen, plus de motivation pour obéir à Allah Azza wa Jal. Parce que tu vas maintenant réaliser qu'est-ce qu'Allah t'accorde, qu'est-ce qu'Allah accorde à ses serviteurs obéissants. Et ça te fera réfléchir deux fois avant de mettre un pied dans le péché. Et c'est là la limite, la ligne jaune, ou plutôt la ligne rouge, qu'on ne doit pas dépasser. Cette ligne rouge, ben la société nous dit le plaisir immédiat, tu peux y aller, il n'y a pas de mal, on n'a pas à culpabiliser. Donc justement, quand on étudie les conséquences des péchés dans l'au-delà, ça nous permet de réaliser que ce plaisir immédiat que je vais essayer d'avoir par l'intermédiaire d'une transaction, par le biais du riba, de l'intérêt, ou par un péché en rapport avec l'adultère, avec al-jins, par rapport avec les pulsions, exemple l'adultère, ou quelle que soit la nature des péchés, même si j'ai l'impression, et cette impression c'est une illusion, j'ai l'impression que ça me procure quelque chose de considérable, comprends, il y a un mu'min, que ce bonheur-là, c'est un bonheur qui est furtif, c'est un bonheur qui est futile, sans intérêt, et c'est un bonheur qui est vraiment limité dans le temps. Et tout ce qu'il y a autour de ce bonheur, c'est Shaitan qui te le fait voir. Il a la possibilité d'embellir les péchés. Ça, ça concerne notre relation avec ce péché et ce plaisir immédiat de ce monde. Et là où les textes sont importants, c'est de réaliser que si j'accomplis ce péché le jour de Qiyama, quelles seront les conséquences. C'était là l'objectif d'étudier la situation des pécheurs le jour de Qiyama. Ensuite, donc, on a essayé de voir la situation des pieux le jour de Qiyama, le jour de la résurrection. Et c'est dans cette étude, dans ce chapitre-là, que s'inscrit ce hadith des sept catégories de personnes qui seront selon du trône d'Allah, car ces personnes auront cette place par rapport à certaines bonnes actions qu'ils auront accomplies dans ce monde. Et comme on l'a dit, c'est un délil, c'est un cheminement que le prophète alayhi salat wa salam nous montre, c'est une voie qui nous montre vers le salat al-mustaqim, vers l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire réunis dans ta vie ces bonnes actions, mais surtout réunis dans ta vie les qualités qui doivent accompagner ces bonnes actions. Et là, il y a plusieurs leçons dans l'étude de ce hadith. Ce qui nous interpelle, c'est que ce hadith, mis à part le premier cas, qui est un peu plus complexe, ce sont des actions qui sont à la portée de tout le monde, de chaque croyant. Donner l'aumône, ce n'est pas quelque chose de difficile. Être attaché au masjid, avoir de la muhabba pour son frère en islam, ce ne sont pas là des choses impossibles à réaliser. Mais, bien au contraire, ça nous permet de comprendre que les actions ne sont jamais simples. Les bonnes actions ne sont jamais simples. Ne jamais sous-estimer la façon ou ne jamais déconsidérer la bonne action. Une bonne action, quand tu l'accomplis, tu dois réunir des conditions en relation avec la sincérité, avec la dévotion, l'espoir de rétribution, la soumission totale à Allah Azza wa Jal, la lutte entre ton nafs, l'ego qui te demande de faire autre chose, et ton taqwa, ta taqwa, ta piété qui te pousse à obéir à Allah Azza wa Jal. Tout ça, toutes ces réactions spirituelles, toutes ces réactions de foi, nous devons les retrouver dans ces sept actions et umouman, d'une manière générale, dans toutes les bonnes actions qu'on accomplit au quotidien. En fait, c'est un mode de vie. Au-delà des bonnes actions, si on pouvait les énumérer de 1 à 7, il y a des qualités spirituelles qui sont ancrées dans la foi qu'on doit absolument, absolument, absolument réunir et faire vivre à travers toutes nos bonnes actions, et ça doit être l'âme de notre relation avec Allah Azza wa Jal, et c'est basé principalement autour du ikhlas, de la sincérité et la dévotion envers Allah Azza wa Jal. Donc on avait commencé l'étude de la sixième catégorie, l'homme qui donne l'aumône avec une telle sincérité que sa main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Et on a eu l'occasion, bi'idhnillah, jusqu'au dernier mardi, de passer en revue quelques versets du Coran qui mettent en avant les récompenses qu'on obtient en donnant l'aumône. Mais pas uniquement voir les récompenses, parce que les récompenses des bonnes actions, on peut dire que ce sont des hadiths que nous connaissons. Mais voir le mujahada, le sacrifice qu'on doit ressentir lorsqu'on donne l'aumône. Et ce qu'on va essayer de voir à partir de ce soir, Inch'Allah, ce sont maintenant des hadiths, des paroles prophétiques qui parlent du même sujet. Il y a un hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa salam nous explique que Allah azza wa jal a dit: dépense, ô fils de Adam, et je dépenserai pour toi. Le hadith est très simple. Il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas de métaphore, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est intéressant, c'est de développer cette approche spirituelle. Navariya, il y a une approche spirituelle à développer, et cette approche spirituelle, ça doit faire partie de notre vision du monde. Exactement ça. Cette approche spirituelle doit faire partie de notre vision du monde. Au-delà des textes, au-delà des mots, pardon, du texte, du matin, on doit comprendre que quand tu donnes le chemin d'Allah, certes, il y a des récompenses, mais réalise que quand je donne, je m'engage dans une transaction avec qui ? Avec Allah. Et dans cette transaction, il n'est pas question d'un euro, de 10 euros, de 100 ou de 100 000 euros. On peut presque dire que la somme n'importe peu. Certes, tu donnes 20, c'est mieux que de donner 1. Mais 1 euro que tu donnes avec sincérité, 1 euro que tu donnes dans une situation où toi-même, tu es dans, je ne dis pas la pauvreté, mais dans un contexte un peu compliqué, où les fins du mois sont difficiles, mais tu donnes 1 euro, ça peut valoir beaucoup plus que celui qui tire un billet de 50 ou de 100 euros, qui le donne peut-être par ostentation, ou alors il le donne sincèrement, mais cela ne représente pas un grand sacrifice. On verra par la suite, il y a un hadith qui dit que, si je ne me trompe pas dans les termes, que un dinar peut dépasser 1000 dinars. Un dinar d'un homme qui n'a pas les moyens peut avoir plus de valeur auprès d'Allah, bien sûr. Pas dans une balance, pas sur le plan monétaire, parce qu'entre 1 et 1000, entre 1 euro et 1000 euros, il n'y a pas photo. Mais pour Allah, 1 euro ou 1 dirham, 1 dinar que tu donnes alors que tu n'as pas les moyens, ça peut valoir beaucoup plus auprès de notre Seigneur que 100 ou 200 ou 1000 euros, 1000 dinars, 1000 rials, ce que vous voulez, qu'un homme riche donne, et pour lui c'est une goutte d'eau dans sa fortune. Voyez l'exemple des sahaba, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Une histoire connue, ça fait partie des hadiths qu'on doit essayer de voir. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu un homme qui était de passage et qui était affamé, il a dit au prophète d'Allah: est-ce qu'une personne, en ce sens, peut m'accueillir pour un repas? Et le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait pas le faire lui-même. Il a sollicité un sahaba qui lui-même n'était pas dans une situation très à l'aise. Donc, il avait juste une petite quantité de nourriture suffisante pour ses enfants. L'histoire est très connue. Puis, il a demandé à son épouse d'éteindre la lampe et de faire comme si que la lampe ne fonctionne pas et de coucher les enfants plus tôt. Et dans l'obscurité, il fait comme si qu'il mange, que tout le monde est en train de manger. Et en réalité, c'est l'invité du prophète alayhi salatu wassalam qui mange tout le repas qui était prévu pour une famille tout entière. Et notre prophète alayhi salatu wassalam annonce la bonne nouvelle à ce sahaba le lendemain, ou un petit peu plus tard, qu'Allah azza wa jal a révélé un verset concernant l'aumône que cette personne a accompli. Alors que on connaît, qu'est-ce que les sahabas mangeaient? De l'orge, ou un peu de blé, ou des dattes, c'est-à-dire nourriture qui ne vaut pas, qui vaut même pas ce que nous consommons, d'accord? C'était un sacrifice, il n'y avait pas une valeur, il n'y avait pas une valeur marchande. Ce plat, ce n'était pas un plat qui coûte 10 000 ou 15 000 dinars, dirham, abadan, wallah. Bien au contraire, il mangeait de façon très simple. Mais ce qui a plu à notre Seigneur, c'est le mujahada, le sacrifice, la sincérité. La sincérité, il le fait pour Allah et il n'attend strictement aucun retour de cette personne, ni même des remerciements, et le sacrifice. Intérieurement, tu te dis que c'est pour mon épouse, c'est pour mes enfants, ma famille. Mais ta foi te dit que cette personne est dans la difficulté, je me dois de venir en aide à cette personne en mettant ma confiance en Allah qui nous accordera la bénédiction, et Allah sera satisfait de nous, donc les choses iront mieux. Vous voyez, c'est une vision des choses que nous devons adopter. Il y a des fois où on a la main lourde. Quelqu'un vous sollicite personnellement ou pour un projet, et là on commence à faire des calculs. Oui, mais avec la conjoncture économique, avec la situation, avec les fins du mois, avec là les impôts qui sortent, c'est pas simple, et ainsi de suite. Non, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment parce que tu as intégré les règles mathématiques qui ne sont pas les règles qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. C'est pas les règles qu'Allah a révélées. Ce ne sont pas les règles en rapport avec Al-Ghaib. Nous nous basons sur des règles mathématiques. Si je donne, j'aurai moins. Si je donne, je n'aurai pas suffisamment d'argent pour acheter du riz, pour acheter telle chose, et ainsi de suite, pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc le nazariya, cette approche que nous devons intégrer, c'est réaliser que quand je donne, Allah se charge de moi. Quand je donne le chemin d'Allah, je n'ai pas à me soucier. Je n'ai pas à me poser des questions. Oui, mais après, comment je vais faire? Tu donnes. Et également, quand tu donnes, ne regarde pas la personne. Ne regarde pas que oui, ça c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des problèmes avant. Ou ça c'est quelqu'un qui n'est pas... Ne regarde. Bien sûr, elle donne pour une bonne cause. On ne va pas donner à des voyous. On ne va pas donner à des gens qui vont acheter des cigarettes et ainsi de suite. On parle de personnes qui sont mustahiq. Je pense qu'on s'est bien compris. Des personnes qui sont méritantes. Des projets qui sont sérieux pour la masjid, la madrasa et ainsi de suite. Des choses sérieuses et clean, bien sûr. Mais ne regardez pas les individus. Ne regardez pas les personnes, même si on a eu des antécédents avec cette personne, lui, c'est un intermédiaire. Peu importe qu'il s'appelle Imran, Abdullah, peu importe qu'il soit de telle origine, telle ethnie, ça ne m'intéresse pas. Quand je donne là, c'est pas pour lui, c'est pas pour son visage, c'est pas pour son intérieur, c'est pour Allah. Et je dois réaliser qu'Allah a mis cette personne sur mon chemin. Et c'est un ibtila, c'est un test. C'est une épreuve pour voir est-ce que je vais m'engager dans cette porte de khayr qu'Allah va me présente. Est-ce que j'ouvre cette porte ou je me ferme moi-même cette porte. Il y a des exemples qu'on peut donner, mais après les exemples, je ne sais pas, est-ce que faut faire attention concernant l'aumône. On ne peut pas donner des exemples personnels parce que ça peut friser l'ostentation. Mais bon, Allah connaît notre intention, il n'y a aucune mauvaise intention. Il y a 3 jours... J'encontre une personne au centre-ville de Saint-Denis. Une personne me salue et tout, il fait salam, on discute. Et la personne me dit, avec beaucoup de gêne, beaucoup de pudeur, qu'il a un petit problème, sa carte bancaire ne marche pas. Et il doit de l'argent à quelqu'un, et est-ce que je peux dépanner? Bon, quand quelqu'un vous dit sa carte, il y a un petit problème avec sa carte, c'est pas la carte qui a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans la carte. D'accord? C'est pas la carte qui marche pas, c'est que la carte est vide. Okay? Mais il n'a pas menti. J'ai un problème avec ma carte, c'est les Moudjmal. J'ai un problème avec ma carte, c'est que quand je mets dedans, ben, il dit qu'il n'y a rien. Donc c'est un problème de carte. On va dire ça comme ça. Donc on a essayé, dans la mesure du possible, parce que ce n'était pas des sommes énormes aussi, hein, d'aider cette personne. Et puis là, on s'est dit que je me suis rappelé de tout ce qu'on avait lu, bismillah, de ce chapitre concernant la réaction des pieux prédécesseurs lorsqu'ils donnaient l'aumône. Ils n'arrêtaient pas de remercier la personne qui les avait sollicités. Et d'un regard extérieur, les gens peuvent se dire que c'est le monde à l'envers. C'est Lot, celui qui t'a demandé, c'est lui qui doit te remercier. Il disait que non, lui c'est un asbab, c'est un intermédiaire pour qu'Allah m'accepte. C'est un intermédiaire pour qu'Allah pardonne mes péchés. C'est un intermédiaire pour qu'Allah m'accorde bénédiction dans ma vie. C'est un intermédiaire pour qu'Allah purifie mes biens de tout ce qui est mauvais. C'est un intermédiaire pour qu'Allah purifie mon cœur de l'avarice. C'est un intermédiaire pour qu'Allah me protège des balas, des épreuves, des malheurs, des difficultés, des maladies, et ainsi de suite. Il y a les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils accomplissaient ce genre d'action, ils avaient une conviction iman, yaqin, sur tous les textes en même temps. Ce n'est pas juste de la bonté. C'est pas juste que tu donnes une pièce, voilà, je suis généreux. C'est un geste humain. Allons au-delà de ça. L'humanisme et tout, c'est très beau, mais on va au-delà de l'aspect de l'être humain. Tu te dis que je le fais pour Allah et Allah va m'accorder telle chose. Et donc, ces pieux prédécesseurs, lorsqu'ils avaient l'occasion d'aider leur prochain, ils les remerciaient. Parce qu'il dit que grâce à vous, Allah m'accepte. Et tout ce qu'on a dit comme vertu tout à l'heure. On va un peu dans tous les sens, mais il y a un des pieux prédécesseurs, on verra peut-être par la suite, avec son nom, disait que ce sont des personnes qui apportent nos hasanat directement de notre mizan, de notre balance. C'est une métaphore, d'accord? Il dit que ces gens-là, ça c'est ni'ma de la part d'Allah. Ce sont des gens qui ont été envoyés par Allah pour apporter des récompenses et les poser directement de notre balance. Le jour de Qiyama, comment puis-je ne pas aimer ces personnes? Comment est-ce que des gens peuvent éviter quand il y a quelqu'un, on connaît quelqu'un, il est dans la difficulté, on traverse la rue, il dit parce qu'il va me demander et je n'ai pas envie de lui donner, et ainsi de suite. Bilax. Et on verra par la suite, il y a tellement de choses à voir dans ce bab, c'est énorme. Très souvent, on se dit que quand il s'agit de donner, ben, il faut être riche. On dit que la sadaqa, c'est la bonne action des riches. Ben, on va voir le deuxième hadith, ou le troisième, peu importe. C'est quand le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Ittaqillaha walaw bishiqqi tamra. Ittaqinnar, excusez-moi. Ittaqillah, le sens, ça peut aller aussi. Hein, on peut éprouver la crainte d'Allah dedans. Mais ce n'est pas le matin du hadith. Ittaqunnar. Protégez-vous du feu de l'enfer. Protégez-vous du feu de l'enfer, même par le biais d'un morceau de date. Et c'est là qu'on voit que la quantité n'importe peu. C'est là que nous voyons que l'aumône, ce n'est pas une action dernière. Bien au contraire, la sadaqa du pauvre aura plus de valeur qu'on a dit tout à l'heure pour Allah Azza wa Jal, parce qu'il a donné alors que lui-même il est dans une situation un peu difficile. Et les ulama, les muhaddithins, nous ont donné des explications magnifiques à propos de ce hadith qu'on ne peut pas résumer en quelques secondes. Ils disent, voyez, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? An-nar. Ittaqou quoi? An-nar. Et nous connaissons la description du feu de l'enfer, comme il y a dans le Coran, dans les hadiths, c'est vraiment la chose la plus effrayante. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Un morceau de date. Combien coûte un morceau de date? Ça ne se chiffre pas. Est-ce que ça passe, vous passerez par la tête, dis à quelqu'un, dans le salon de la maison, tu dis, je vends des morceaux de date. Il ne faut pas déconner. C'est quoi? 2 centimes, 3 centimes, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur. Et maintenant, vous allez dire qu'ici, à La Réunion, une date qui vient de Médine. Je vous parle de date, de le contexte, où il y a des datiers partout. On est à Médine, à Filmadine. Les datiers, c'est partout. Donc, les dates, c'est quelque chose qui est accessible. Ça n'a pas de grande valeur marchande. Et le prophète n'a pas dit, n'a pas précisé, des adjoua ou des ambar, des dates de luxe. Non, quelles que soient ces dates. Déjà, un morceau, on a d'un côté le jahannam et on a de l'autre côté un morceau de date. Pour qu'on réalise que ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la valeur marchande de ce que tu donnes, c'est ta dévotion. Ta soumission à Allah Azza wa Jal, ta sincérité et l'esprit de sacrifice. Ça, je dois le vivre tous les jours. Ce matin, et qu'Allah nous protège de l'ostentation, pour montrer aussi qu'il y a des limites. Hein, on doit être clairvoyant. Sortant de la boulangerie, j'ai une personne qui n'était pas, c'est pas un musulman, il m'attendait près de la voiture. Bon, il a dû voir que la voiture n'est pas trop vilaine. Khair, Inch'Allah, il m'attendait près de la voiture en train de fumer. Déjà, c'est un mauvais signe. J'ai compris qu'il allait demander. Mais je me dis que combien coûte un paquet de cigarettes? 5 €? C'est bien, Nabil. Tu as bien compris le principe. Il ne faut jamais répondre aux questions. Combien coûte un paquet? 7 €, hein, à peu près. Donc, moi déjà, quand je vois quelqu'un qui fume, je ne donne pas l'aumône. Parce que si tu es capable d'acheter un paquet de cigarettes à 7 €, tu as 7 baguettes. Tu as du pain pour la semaine. Donc, il ne faut pas abuser. Et également, j'ai mon avis personnel concernant la cigarette. Je suis persuadé que c'est haram. Alors que, bon, beaucoup sont d'avis, c'est makro. Mais peu importe. D'autant plus que la personne, c'était pas un musulman. La personne, en fumant, me demande, est-ce qu'il n'y a pas une petite pièce? J'avais des petites pièces, chantait la boulangerie. J'ai dit, petite pièce? Pas forcément, mais est-ce que je vous achète un morceau de pain? Il a hésité. J'ai compris que le pain n'intéresse pas. Et il m'a dit, ben un café. Je dis, ok, un café. Une bonne action. On se dit que, qui nous dit que ce n'est pas par cette action que, un, premièrement, la personne peut avoir guidé, Hidaya, et il y avait des gens autour. Mais quand une personne, il voit un mu'min, un musulman, qui revient, qui dit un café pour le monsieur qui est dehors et tout, c'est pas qu'est-ce qui se passe par la tête. Ça peut être un motif de Hidaya. Allah seul le sait. Tout comme, parfois, quand on agit mal, parfois on se laisse emporter, qu'Allah nous pardonne, on se met en colère, on donne une mauvaise image, parce qu'il y a des fois où on a la tenue de la sunnah, on porte la barbe, donc on peut facilement vous identifier comme musulman. Et quand on vous identifie comme musulman et que vous faites quelque chose qui n'est pas acceptable dans la société, ben vous donnez une mauvaise image de l'islam et pouvez détourner les gens de l'envie de connaître la religion. Donc c'est lourd en conséquence. Donc parfois, pas une action banale comme celle-là, on ne sait pas. Peut-être qu'une personne peut entrevoir la hidayah, Wallahu a'lam. Et on se dit que la personne mérite pas, la cigarette en main. Le seul truc, c'est que je ne vais pas l'encourager dans son visage, je ne donne pas de monnaie, mais boire un café, moi aussi j'aime boire un café, ça procurera du bonheur. Et apporter du bonheur à une créature d'Allah, Azza wa Jal, c'est une bonne action. Quand un homme t'es descendu dans un puits prendre de l'eau pour un chien qui allait mourir de soif, Allah lui a accordé le paradis pour cette bonne action. Là, on parle d'un animal. Là, on passe à un autre degré là. On parle de Ashraful Makhlouqat, la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal, l'être humain. Après, on ne regarde pas, il est mu'min, il est chrétien, juif, athée. Ça, c'est pas dans cette situation, c'est pas le problème. C'est une créature d'Allah Azza wa Jal, idhalu surur, fait pénétrer, fait entrer un peu de bonheur dans le cœur d'une personne, c'est une bonne action. Et dans le programme de l'autre mardi, des autres mardis en ville, lorsqu'on parle de cette qualité d'Allah, la clémence, Rahman, Rahim, on a étudié ce hadith dernièrement, en gros, « Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fil sama » Ayez de la compassion, ayez de la pitié, soyez bienveillants avec les personnes qui sont sur terre, c'est-à-dire avec vos semblables. « Yarhamukum man fis sama » Celui qui est dans les cieux sera bienveillant, sera compatissant avec vous. Comme on agit avec les gens, Allah Rabbul Izzah agira avec nous. Vous voyez la sadaqa, selon moi, la sadaqa dans le sens islamique de l'aumône, c'est le plus grand geste d'humaniste, d'insani. Il n'y a pas plus grande manifestation de muhabba, de fraternité, que l'aumône préconisé par les textes dans notre religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dernier hadith, on en est à 26 minutes, avait dit à Bilal radiallahu anhu, maintenant dans quel contexte il faudrait revenir, il faudrait faire une petite recherche. Le hadith est rapporté par At-Tabarani, Al-Bazzar, et authentifié par également Al-Mishkat, est authentifié à Albani, donc le hadith est authentique, mais il faut juste revenir vers les commentaires pour voir dans quel circonstance le prophète a prononcé ces paroles. Il s'était adressé à Bilal. Quel Bilal? Ibn Rabah, radiallahu anhu. Un homme riche? Non, un homme pauvre, descendant d'esclaves, avec une foi exceptionnelle. Il a dit, anfiq, dépense, ya Bilal, donne, c'est-à-dire de le chemin d'Allah, wala tarcha, et ne crains rien du Seigneur, du trône. Ne crains pas la pauvreté, ya'ni. Alors, si je ne me trompe pas, j'avais cru entendre un commentaire qui allait dans ce sens, que Bilal était responsable des dépenses pour le prophète alayhi salatu wassalam, et dans ce contexte, le prophète alayhi salatu wassalam lui aurait dit, donne. Quand il y a de l'argent, comprenons, dans la caisse, baytul mal, n'hésite pas à donner à ceux qui demandent, et Allah nous accordera plus, n'aie aucune crainte, n'aie pas la main lourde. À vérifier, hein, mais il me semble que c'était Wallahu a'lam dans le sens de, dans ce sens. Donc on comprend que à travers cet encouragement du prophète alayhi salatu wassalam à dépenser, le cœur du croyant lorsqu'il donne s'oriente vers Rabbul Arsh al-Karim. Wala tarsha min dhil arshi iqlala. On ne doit craindre aucune diminution. On ne doit craindre en aucune façon la pauvreté ou an-naqs, le manquement des biens. Et on s'oriente vers le Seigneur du trône, Rabbul Arsh al-Karim, c'est lui qui donne le rizq. Et je donne pour lui, et il ne me rendra pas pauvre parce que j'ai donné pour lui. Une réaction tout à fait logique, et spirituelle et logique. Celui qui donne la subsistance, qui accorde la subsistance, celui qui donne la richesse, qui reprend la richesse, qui donne l'honneur, qui reprend l'honneur, qui humilie, et qui ensuite peut te donner l'honneur, tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Si je donne pour lui, il ne va pas reprendre la baraka. Bil'ax, il a promis de nous accorder la bénédiction. On termine, parce qu'on doit rester avec 30 minutes, on est à 29 et 16 secondes. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous annonce cette bonne nouvelle. Et là, ce genre de hadith, il ne faut pas l'écouter comme Fadal et Aman, on écoute, on cumule et on passe à autre chose. Non, on l'écoute avec une approche différente. C'est quoi l'approche différente? Ça doit réveiller en nous une vision de la vie. Une vision de la vie que le prophète alayhi salatu wassalam a su transmettre aux sahaba. Et l'objectif de ce hadith, c'est la pratique, oui. La pratique occasionnelle, non. La pratique régulière, oui. Mais avec ça, une vision des choses qui est différente de celle que la société nous dicte. Et on voit d'abord le texte du hadith. « Ma min yaumin » Il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait deux, il n'y a pas un jour qui se lève, comprenons, sans qu'il n'y ait deux anges qui annoncent, qui font cette annonce, i'lan. Fayaqulu ihdahuma, un des deux dit, oh Allah, accorde ta bénédiction, en ce sens, à la personne qui donne. Et l'autre qui dit, ya Allah, détruis ou reprend ou diminue les biens de la personne qui est mumsika, la personne qui retient. La personne qui retient, qui ne donne pas dans ton chemin, ya Allah, talafa, c'est-à-dire détruit ou alors diminue les biens de cette personne. En commentaire, les savants disent, l'action directe à accomplir, c'est quoi? C'est que tu donnes. Tous les jours, donne l'aumône. Je n'ai pas dit occasionnellement, mais tous les jours. Parce que le hadith dit, ma min yaoumin. Il ne se passe pas un jour sans que. C'est-à-dire, tous les jours, il y a cette annonce. Il y a un lit tous les jours. Donne quelque chose dans le chemin d'Allah. Et lorsque le prophète, une fois, s'est adressé aux sahaba pour les inciter à accomplir les bonnes actions, parmi les questions, il avait demandé qui a fait ça aujourd'hui? Qui a accompli telle bonne action? Le frère, il se souvient de ce hadith, ça remonte à 7 ans. On avait expliqué ça. À l'époque, il était régulier à Nodorous, au Latanier. C'est une petite pique, c'est pour toi. Khair, Inch'Allah. Allah ne t'a fait de revenir. Tafsir ibn Kathir. Il était avec nous depuis le Fatiha. Allah, c'est assez étude, Mach'Allah. Là, on termine. Amma et l'akh n'est plus là. On avait expliqué que le prophète une fois avait dit aux sahaba, Man asbaha minkum sa'ima. Qui parmi vous ce matin a jeûné? Abu Bakr a levé le doigt, la main. Qui parmi vous a assisté à salat janaza ou a suivi un convoi mortuaire? Sahaba, Abu Bakr lève la main. Qui parmi vous a rendu visite à un malade? Abu Bakr lève la main. Ce matin, asbaha, c'est-à-dire que je ne sais pas c'était à quelle heure, Allahu a'lam. Abou Bakr avait déjà fait toutes les bonnes actions imaginables. Et les sahaba, ils observent. Abou Bakr, c'était vraiment subhanallah. Subhanallah. Et là, le prophète demande également qui est venu en aide à son prochain, qui a donné le monde, ainsi de suite. Allahu a'lam. On réalise que ces actions ne sont pas limitées dans le temps. Ce n'est pas que le monde, c'est synonyme de Ramadan. Non. C'est pas que Ramadan, tu commences à donner, c'est Ramadan, tu envoies un petit plat de gâteau pour tes voisins. Non, ce sont des actions du quotidien. Et bien inconscient qu'Allah me pardonne et me donne tawfiq de le faire, de le mettre en pratique si on ne le fait pas, bien inconscient ce croyant qui laisse un jour passer, sans donner quelque chose dans le chemin d'Allah. Le frère va dire, oui, mais si on ne travaille pas, on touche le RMI, le RSA, donc quoi RSA? RSA, STA, je ne sais plus. Hein. Bientôt, il n'y aura plus, Allah, avec la crise et tout, on verra. Allah protège, un barakat, inshallah. Bref, il dit qu'on ne peut pas tous les jours donner. Mais, Sahaba avait demandé la même chose au Prophète sallam. Il avait donné certains éléments de réponse. Et dans d'autres situations, on voit les réponses, comme on a vu en introduction ou au début du dars, donner, ce n'est pas la quantité. Tu donnes un morceau de date, c'est sadaqa. Et donc, on conclut avec cette anecdote pour qu'on réalise que, un, tous les jours je dois donner. Il ne faut pas qu'un jour passe sans que je le donne quelque chose dans le chemin d'Allah. On concrétise cet enseignement par une action, par un vécu. Il y avait un des pieux prédécesseurs, donc là, comme on le dit, on va un peu dans le désordre. Ibn Khuzaïma, exact. Alhamdulillah, on l'a trouvé. Ibn Khuzaïma, récit d'Ibn Khuzaïma, dit que cette personne. Quelqu'un rapporte d'Ibn Khuzaïma, qui est un grand savant, que chaque jour, tous les matins, lorsqu'il allait à la masjid, il apportait quelque chose à sa poche pour donner à quelqu'un. S'il avait de l'argent, c'était de l'argent. Si c'était du pain, quelque chose à manger, mais quelque chose à manger. Et il y a une fois, il était parti, il n'avait rien. Il a pris quelques, pas des gousses d'ail, des oignons. Quelques oignons, il a mis dans sa poche. Et un de ses élèves a dit, « Cher, ça va salir tes vêtements ?» Il a dit, « C'est pas un problème ça. » Il a dit que j'ai apporté ça pour donner à quelqu'un. Je cherche une personne qui veut bien accepter cette aumône. Parce que notre prophète, et là on voit les grands savants, ils connaissent et ils mettent en pratique en premier. Du coup, ça m'a dit kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bayn an-nas aw qala hatta yuhkam bayn an-nas. Chaque individu sera, c'est le jour de Qiyama, à l'ombre de son aumône jusqu'à ce que les gens soient jugés. Et il a intégré, lui, le sens de ce hadith, que pour ma survie de l'au-delà, je dois donner quelque chose. Donner, faire contenter le cœur de son prochain, yaoumiyan. Donc si on peut ressortir de ce majlis de 30 minutes, de 32 minutes, avec cet enseignement que tous les jours, je dois donner quelque chose dans le chemin d'Allah. Ça peut être une date, mais de nos jours, tu donnes une date à quelqu'un, il ne comprend pas. Donc il faut donner cette demande en fonction du contexte, même si c'est pour 1 euro. Est-ce qu'on peut tous donner 1 euro par jour? Je pense que c'est réalisable. D'accord, en sortant de la boulangerie, il y a toujours des gens qui sont un peu paumés, qui achètent un croissant, achètent un petit pain, un macatia. Combien coûte un macatia? 40 centimes. Achète un macatia au chocolat, un petit truc. Fais contenter le cœur de la personne et protège-toi du feu de l'enfer. Taqunnar, walo bishiqqi tamra, même avec un morceau de date. Dans notre contexte actuel, on pourrait dire avec ce qu'on a, d'accord, ce qui ne coûte pas beaucoup d'argent, ce qui est à la portée de tout le monde, fais-le pour Allah. Inch'Allah, on fait tous intention de mettre ça en application. Et donc, le nazariya, ce qu'on voulait, on avait commencé tout à l'heure, c'est l'action, tu le mets en pratique. Mais au-delà de ça, il faut qu'on adopte cette vision du monde. C'est-à-dire, quand un joueur se lève, tu sais que tu dois faire telle chose, tu vas à la masjid, bien sûr, tu travailles, tu as les trucs, et ainsi de suite. Tu connais ton programme, mais dans ta tête, réalise que là, il y a eu l'i'lan de l'ange, de ces deux anges. Je dois faire en sorte d'être parmi ceux qui ont obtenu les doigts et non pas la malédiction. Ça doit pénétrer nos cœurs. C'est-à-dire que quand tu vois une journée qui commence, ne vois pas juste le soleil, les oiseaux, et ainsi de suite. Tu réalises que l'ange a déjà lancé l'appel dans quelle catégorie, dans quel groupe je me positionne. C'est un fikar permanent. C'est un souci permanent. C'est un muraqabatullah permanent, une pensée d'Allah Azza wa Jal à chaque instant. Qu'Allah nous accorde cette compréhension sainte. Et on va essayer d'avancer à travers différents hadiths, au-delà de l'aspect des bonnes actions, le mettre en pratique, les récompenses, mais comprendre l'esprit, la hikma du hadith et la mentalité spirituelle, l'approche spirituelle que nous devons construire jour après jour pour voir la vie comme les sahaba, eux, ils le voyaient, pour comprendre le monde avec notre foi qu'Allah nous accepte, nous protège des erreurs, des manquements, de l'ostentation, nous protège de l'avarice et qu'Allah nous accorde un cœur généreux, une confiance totale en lui, qu'Allah nous accorde bénédiction de nos biens, de nos familles, de nos enfants, avec notre épouse, avec nos parents, et que chaque pas que nous accomplissons, ce soit un pas qui nous mène vers le contentement d'Allah Azza wa Jal. Chaque décision qu'on prend dans tous les domaines, ce sera une décision qui nous sera profitable spirituellement et sur le plan dunyawi, matériel également, et qu'Allah nous permette que chaque parole que nous prononçons, ce seront des paroles qui ne seront pas source de regrets ni de péché, mais bien au contraire, soit ce sont des paroles neutres, ou alors des paroles qui nous approchent d'Allah, que chaque instant de notre vie, nous le passons dans At-ta'an de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. J'ai amené des formulaires du concours Hajj, au cas où si des personnes n'ont pas pu en avoir. Je sais qu'à Montreuil, ils n'ont pas pu distribuer après Jumu'ah, parce qu'il n'y avait pas assez de formulaires, il y avait beaucoup de gens. Donc j'ai des formulaires, vous pouvez prendre pour vous, pour vos proches, tant que ce sont des personnes majeures. Les frères, les sœurs, il n'y a pas de mal. Donc participez et faites participer. Et réalisons qu'au-delà de l'aspect concours Moussa Abaqa, on parle de ilm, de connaissances religieuses. Qu'Allah nous accepte. Jazakumullah khair.